RFI, 7h à Paris, 9h à Damas. Un nouveau journal avec vous, Grégoire Morelli, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, la Syrie, où le nouvel homme fort du pays a reçu les représentants de la communauté chrétienne.
Ahmad al-Shara s'est engagé à respecter toutes les minorités, mais les chrétiens attendent de voir les effets concrets de cette nouvelle politique. C'est le cas à Homs, vous l'entendrez. En Corée du Sud, la garde présidentielle semble décidée à protéger Yoon Suk-yeol. Le mandat contre le chef d'État suspendu arrive à son terme demain lundi. Nous serons à Séoul dans cette édition. La terre tremble en Éthiopie et cela fait plusieurs semaines maintenant. Des séismes dont l'origine est liée à la forte activité volcanique dans la zone concernée. Un phénomène inquiétant, nous dira une experte. Enfin, c'est l'un des pays les plus armés d'Europe. Le Monténégro serre la vis contre les armes à feu légales et illégales. Les précisions d'ici quelques instants.
Mais d'abord la Syrie, Grégoire, les responsables chrétiens ont rencontré cette semaine le nouvel homme fort du pays, Ahmad al-Shara.
Devant eux, l'ancien combattant affilié à Al-Qaïda s'est engagé à respecter toutes les minorités. Un message qui se veut rassurant, mais à Homs, dans le centre du pays, les chrétiens attendent de voir les effets concrets de cette politique. Dans la vieille ville bombardée par l'ancien régime de Bachar al-Assad, c'est entre espoir et peur du lendemain que vit la population chrétienne. Reportage d'Abla Jounaini.
Au cœur de la vieille ville, les immeubles en pierre sombre et le charme des petites ruelles laissent souvent place aux traces des destructions causées par les bombardements du régime. Nombreux sont les habitants qui ont déserté le quartier au plus fort de la guerre, pas ces deux sœurs qui désormais doutent.
Nous sommes dans l'inconnu, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc on vit au jour le jour. On se dit qu'aujourd'hui on se sent en sécurité et on remercie Dieu. Mais demain, on n'en sait rien. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas partis d'ici car c'est notre région, notre maison et notre vie. Cela nous suffit d'être ensemble. À la fin, on sort de chez soi et on implore Dieu. C'est donc qu'on s'en remet à lui. Alors laissons-le faire.
Dans sa petite boutique, Fada ne regrette pas l'ancien régime qui se présentait comme protecteur des minorités. Elle peut enfin sortir librement de chez elle. Les hommes de Hayat Tahrir al-Sham ne la gênent pas.
Non, au contraire, ils passent toute la journée devant ma boutique. Je les vois en sortant faire mes courses. Ils sont très respectueux. Dans notre quartier, El Hamidiyeh, on a essentiellement des musulmans et des chrétiens.
Ailleurs, dans les quartiers alaouites, la minorité dont faisait partie le clan Assad, des opérations de désarmement des anciens soldats et miliciens du régime déchu se poursuivent. Leurs échos lointains parviennent jusqu'à Al-Hamidiyeh. Abla Junaidi, Homs, RFI.
Toujours concernant la Syrie, sachez que les vols internationaux à partir de l'aéroport de Damas reprendront ce mardi. C'est l'agence de presse syrienne Sana qui l'a annoncé. L'actualité au Proche-Orient, c'est aussi ces négociations indirectes pour parvenir à la libération des otages et à l'établissement d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre l'État hébreu et le Hamas qui ont repris au Qatar. Israël n'a pas donné de détails sur ce nouveau round de pourparlers alors que des rassemblements étaient organisés hier soir dans plusieurs villes du pays pour presser le gouvernement d'obtenir au plus vite la libération de ces otages, à savoir également qu'une vidéo d'une soldate israélienne détenue par le Hamas depuis le 7 octobre a été publiée hier soir. Impossible d'en connaître la date, mais durant cette séquence, Liri Elbag a appelé, elle aussi, le gouvernement israélien à agir pour obtenir sa libération.
En Corée du Sud, le mandat d'arrêt délivré contre le président Yoon Suk-yeol expire demain.
Une première tentative d'arrestation a échoué hier. La garde présidentielle semble décidée à protéger le chef d'État pourtant suspendu. Le président par intérim, lui, reste silencieux sur la question. Récit de notre correspondance Camille Ruiz à Séoul.
Pas un mot de la part de Choi Sang-mok à propos de la garde présidentielle qui a empêché l'arrestation du chef de l'État vendredi. Pourtant, le président par intérim a la possibilité d'agir, selon Christopher Joo-min Lee, avocat diplômé de droit à l'université d'Harvard.
C'est le président en exercice. Il peut ordonner au service de sécurité présidentielle de se retirer. Compte tenu de la situation, on imagine que la garde présidentielle ne suivra pas ses ordres, mais cela montrerait au moins plus clairement aux yeux du public qu'elle est en train de transgresser la loi.
L'avocat insiste sur le silence de Choi Sang-mok.
Le président par intérim aurait donc pu le faire à tout moment, même pendant l'impasse dans laquelle se trouvaient les enquêteurs vendredi. Mais il ne l'a pas fait. En fait, il n'a même pas évoqué le sujet, ce qui est en soi assez troublant.
De son côté, le Parti démocrate, principal parti d'opposition, tente de faire pression sur le président en exercice. Selon les médias locaux, un des porte-parole du parti a exigé de Choi Sang-mok, je cite, qu'il ordonne à toutes les agences l'absence de l'État, y compris le service de sécurité présidentielle et le secrétariat, de coopérer à l'exécution du mandat. La direction du Bureau sur la corruption des hautes personnalités a fait la même demande, jusqu'alors restée sans réponse. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
À savoir également que des milliers de personnes manifestent en ce moment, malgré le froid et la neige à Séoul. Certains manifestants appelant à l'arrestation du président suspendu, d'autres s'y opposant. Aux États-Unis, une vingtaine de personnalités de la vie politique, sportive et culturelle se sont vues remettre la médaille présidentielle de la liberté par le président Joe Biden. La médaille of Freedom, c'est la plus haute distinction qu'un civil peut recevoir. Et le choix de certaines personnalités cette année est sans aucun doute un moyen pour le président sortant d'envoyer un message à son successeur.
Au total, 19 noms figurent sur la liste des personnalités que Joe Biden a choisi de décorer de la médaille de la liberté. Une distinction qui récompense, je cite, « les contributions exemplaires à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis » ou à la paix dans le monde. Alors bien sûr, il y a des célébrités comme le chanteur Bono, Lionel Messi, Magic Johnson ou encore Denzel Washington, mais Joe Biden a également fait des choix clairement politiques. Dans la liste figure par exemple George Soros, gros donateur du Parti démocrate et bête noire d'un grand nombre de Trumpistes. Il y a aussi Hillary Clinton, candidate malheureuse à la présidentielle de 2016 face à Donald Trump. Le républicain a à plusieurs reprises laissé entendre qu'il souhaitait l'envoyer en prison. Joe Biden remettra aussi à titre posthume une médaille à Bobby Kennedy, frère de John Kennedy et surtout père de Robert Kennedy Jr., le futur ministre de la Santé anti-vaccin et conspirationniste de Donald Trump. Difficile de ne pas voir dans ses choix un message envoyé à Donald Trump à 15 jours de son arrivée à la Maison-Blanche, surtout qu'un peu plus tôt dans la semaine, Joe Biden a aussi remis une autre distinction à l'ancienne élue républicaine Liz Cheney, elle aussi bête noire de Donald Trump. Loubna Naki, New York, RFI.
Les États-Unis qui observent un deuil national après la mort de Jimmy Carter le 29 décembre dernier. La dépouille de l'ancien président a d'abord sillonné Plains, sa ville natale de Géorgie. Et ils étaient nombreux à s'amasser le long des rues, agitant des drapeaux américains pour lui rendre un dernier hommage. Dans le reste de l'actualité, en Éthiopie, après une série de séismes dont la magnitude augmente, des évacuations étaient en cours ce week-end. Ces tremblements de terre sont concentrés dans la région de Afar, Oromia et Amara et sont liés à l'activité volcanique qu'il y a dans la zone. Cécile Droub est sismologue à l'école et observatoire des sciences de la Terre de Strasbourg. Elle travaille sur le nord de l'Éthiopie depuis 20 ans et selon elle, la hausse de l'intensité de cette activité sismique est inquiétante.
Ça a commencé un petit peu avant, mais c'est vrai que depuis 2-3 semaines, il y a une séquence de tremblements de terre qui a lieu. Alors, on a eu beaucoup de magnitude 4. Et là, cette nuit, il y a eu un magnitude 5.6. Donc, ce qui est quand même relativement élevé pour la région. Si on était au Japon, ça serait une petite magnitude. Mais dans cette région-là, voilà, on n'a pas des séismes très forts. Cette séquence, elle est inquiétante parce que les magnitudes sont de plus en plus fortes. C'est une zone qui est affectée par une activité volcanique. Donc, il y a une série de volcans qui sont là et ce sont des volcans actifs, alors qu'ils peuvent dormir pendant plusieurs dizaines, centaines d'années, puis se réveiller. Et puis, c'est une zone d'activité tectonique où il y a des grandes failles. Et ces grandes failles forment ce qu'on appelle ce rift est africain. C'est une région où il y a beaucoup de population et on a surtout la route qui, en fait, achemine toutes les marchandises à l'Éthiopie via Djibouti. Donc, il peut y avoir des conséquences importantes si, effectivement, il y avait une éruption avec blocage de la route.
Cécile Droub, sismologue à l'école et observatoire des sciences de la Terre de Strasbourg, c'était au micro de Lucille Gimbert. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle hier de la ville de Masisi après de violents affrontements contre l'armée congolaise appuyée par les milices locales dit Wazalendo. Confirmée, cette prise de la ville a été confirmée par des sources sécuritaires et hospitalières et sa chute a conduit à un déplacement massif de la population.
Le Premier ministre du Monténégro annonce une série de mesures visant à diminuer le nombre d'armes à feu légales et illégales.
L'annonce intervient après le massacre d'une famille au cours duquel 12 personnes en plus du tueur ont perdu la vie. Dans ce petit pays d'Europe de l'Est, les armes tiennent une place culturelle prépondérante. Les détails avec Laurent Rouy.
Le Premier ministre monténégrin Milojko Spajić a annoncé des mesures draconiennes pour limiter le nombre d'armes à feu en circulation dans le pays. Un objectif ambitieux, tant la possession d'armes est un marqueur culturel au Monténégro, qui était par exemple le seul pays, il y a un peu plus d'un siècle, à avoir rendu obligatoire le port d'armes pour la population masculine. D'abord, le ministre donne 2 mois à la population qui détiendrait des armes illégales pour les remettre aux autorités sans risquer de sanctions. Le ministre veut aussi mettre en place les vérifications les plus strictes d'Europe pour les détenteurs légaux d'armes à feu, avec l'idée que les nouvelles règles feront perdre à une partie de ces détenteurs le droit de posséder leur arme. Enfin, le pays va fermer des clubs de tir sportifs. Le Monténégro est en proportion l'un des pays les plus armés d'Europe. Les 620 000 habitants détiendraient 245 000 armes tant légales qu'illégales, dont beaucoup héritées des guerres yougoslaves des années 1990, soit environ une arme par homme adulte. Laurent Rouy Podgorica, RFI.
L'Europe toujours, où le chancelier conservateur autrichien Karl Nehammer a annoncé ce samedi qu'il quittera ses fonctions de chancelier et de président de son parti dans les prochains jours. Une annonce qui se fait sur fond de fin de négociation avec les sociaux-démocrates pour tenter de former le prochain gouvernement. Cette décision pourrait entraîner la tenue d'élections législatives anticipées ou forcer les conservateurs à négocier avec l'extrême droite arrivée en tête des législatives.
On finit ce journal, Grégoire, sur une note sucrée.
Et oui, Gaëtan, c'est le début de la période de la galette des rois. Mais cette année, pour les boulangers, cette galette laisse un goût plutôt amer. En effet, ces derniers paient le prix fort puisque le coût des matières premières a augmenté par rapport à 2023. Plus 40% pour le beurre, presque autant pour la poudre d'amande. Certains augmentent leurs prix pour s'en sortir, mais d'autres décident de les maintenir, quitte à diminuer leurs marges. Rebecca Arondel a rencontré l'un d'eux à Paris.
Une nouvelle fournée de galettes vient d'arriver dans la vitrine. Terey, habitant du quartier, est venu en chercher une.
C'est une tradition, on va dire que c'est le début d'une nouvelle année et puis bah, c'est ce qui marque voilà, le commencement de 2025.
Mais pour Saad Zerzour, le patron de cette boulangerie, cette année, la galette rime plutôt avec casse-tête. Le prix des matières premières a fortement augmenté, à commencer par celui du beurre.
L'année dernière, on tournait à un prix entre 6 et 7 euros. Là, on est passé à un prix entre 11 et 12 euros le kilo. Et là, on nous dit qu'il n'y a plus de poudre d'amande. Et le prix de la poudre d'amande a doublé.
Malgré ce surcoût, il tient à bloquer ses prix. Le tarif de ces galettes n'a pas bougé depuis 3 ans.
L'objectif, c'est de faire en sorte que nos clients ne désaffectent pas notre boutique et qu'ils continuent à consommer notre galette et qu'on arrive à en vendre autant que les dernières, même si la marge sera moins importante.
Pour l'instant, son pari semble réussi. La boutique ne désemplit pas.
Rebecca Arondel, un petit mot de la cérémonie des Golden Globes, la 82e cérémonie aura lieu la nuit prochaine à Los Angeles. C'est un peu l'antichambre des Oscars et c'est la comédie musicale Emilia Pérez du français Jacques Audiard qui est la grande favorite avec pas moins de 10 nominations.
Le journal de Grégoire Morelli, il est 7h13 à Paris. À suivre la chronique défense, on évaluera les possibilités d'aboutir d'ici la fin de l'année à la fin de la guerre en Ukraine. C'est loin d'être fait, même si les conditions d'un règlement du conflit semblent quand même se rapprocher. On sera au Japon également, en Afrique du Sud et au Canada aussi pour notre tour du monde des correspondants pour voir comment les pouvoirs publics et les entreprises mettent l'intelligence artificielle au profit dans notre vie de tous les jours. Et puis la perfection, c'est dans la nature et les maths le prouvent. On sortira la calculette pour la chronique de la biodiversité. Mais d'abord le sport. Avec Christophe Diremzian du football. Christophe, c'est enfin l'heure de disputer le trophée des champions. Match habituellement en ouverture de la saison française, mais qui a eu du mal à trouver une ville d'accueil cette année.
Oui, au départ c'était Pékin annulé. Les noms de Kinshasa et d'Abidjan ont été prononcés. Finalement, c'est Doha au Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, en lice contre Monaco. L'actuel leader de Ligue 1 contre le 3e qui remettent ça une vingtaine de jours après s'être déjà affronté en Ligue 1. À la clé, un premier titre cette saison. Et surtout une bonne mise en condition pour affronter un mois de janvier chargé avec la Ligue des Champions, en particulier pour le PSG, plus mal embarqué que les Monégasques pour la qualification pour les barrages. Voilà pourquoi le capitaine parisien Marquinhos ne veut pas rater le lancement d'une période cruciale.
On sait tous que le moment important, il arrive en deuxième partie de saison. C'est à nous de maintenant, de le retour des vacances déjà, de la pause, de penser déjà à être très compétitif parce que ça va être très important d'avoir la meilleure équipe possible. Dans le mois de janvier déjà on a 7 matchs. Voilà, ça se passe par demain. Je pense que avoir un beau match demain, une belle victoire, amener le trophée à la maison, ça va nous donner de la motivation, ça va nous donner de courage pour affronter les grandes confrontations de plus en plus qu'on va voir dans cette deuxième partie de saison.
Marquinhos avant PSG Monaco, 16h30, temps universel à Doha.
Et pendant ce temps, la 16e journée de Ligue 1 continue, Christophe. Et Lyon s'en sort, oui, mais péniblement face à Montpellier.
L'OL vainqueur 1-0 de la Lanterne Rouge sur un but dans le temps additionnel et contre son camp à Montpellier. Donc vraiment pas de quoi pavoiser pour les Lyonnais. Cinquième tout de même ce matin. De son côté, Saint-Etienne, sous la conduite de son nouvel entraîneur Eric Horneland, a battu Reims 3-1. Lille et Nantes ont fait match nul un partout. À suivre aujourd'hui, entre autres, Marseille-Le Havre face aux avant-derniers. Ça sera l'occasion pour l'OM, déjà tombé deux fois au Vélodrome cette saison, de se faire respecter chez lui et d'être fort, et ça n'a pas toujours été le cas ces derniers temps, avec un faible, estime le latéral marseillais Quentin Merlin.
Le Havre, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est 17e au classement. C'est des équipes un peu comme Auxerre où on a fauté, mais on doit continuer sur l'élan des deux derniers matchs contre Monaco et contre Lille. Ne pas négliger certaines choses, de montrer qu'au Vélodrome, c'est nous les patrons et personne d'autre. On doit mettre de l'engagement, on doit mettre tout ce qu'on a mis en œuvre contre Monaco et contre Lille, on doit le mettre dimanche soir contre l'Havre pour montrer que plus personne ne peut venir prendre des points au Vélodrome.
Quentin Merlin, Marseille-Le Havre, coup d'envoi 19h45, TU.
En Première Ligue, le réveil de Manchester City se confirme.
Deuxième victoire consécutive pour les Citizens. On se pincerait pour y croire en ce moment. 4-1 à domicile face à West Ham, avec notamment un doublé d'Erling Haaland. La preuve que le champion en titre remonte la pente petit à petit. Confirmation avec son capitaine belge, Kevin De Bruyne, qui fêtait hier son 400e match sous le maillot du club.
On doit gagner des matchs et on a gagné aujourd'hui. On a fait de bons trucs aussi. Je pense que c'était meilleur. On a eu plus de bons moments. Parfois, c'était pas si bon, mais ça va. Je pense que physiquement, c'était un peu mieux. On a mieux joué comme équipe. D'abord, c'est bien de gagner. Je pense que quand tu perds des matchs ou tu fais des matchs nuls, il y avait des matchs qu'on devait gagner. Et parfois, comme Leicester, tu joues pas si bien et tu gagnes. C'est le foot. Et... ouais, c'est bien de gagner, c'est ça.
Kevin De Bruyne sur Canal+, Manchester City, 6e du classement. Petit coup d'arrêt, en revanche, pour Arsenal. 2e, accroché un but partout à Brighton. Peut-être pour le plus grand bonheur du leader Liverpool, qui partage cet après-midi la grande affiche du week-end avec Manchester United.
Et c'était le journal des sports avec Christophe Dirémian. Et la chronique défense avec cette fois vous, Franck Alexandre. Et c'est là encore la première de 2025. Et cette question, justement, cette année 2025, sera-t-elle synonyme de paix en Ukraine? Car après bientôt 3 ans de guerre, les belligérants sont exsangues. Les conditions d'un règlement du conflit semblent se rapprocher. Mais quels scénarios sont sur la table, Franck?
Eh bien, difficile pour l'Ukraine de continuer le combat. En ce début 2025, le rapport de force ne lui est pas favorable. Et les États-Unis, son principal soutien, pourrait se défausser. Le cessez-le-feu n'est pas loin, estime Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Très certainement, on ira vers un cessez-le-feu parce que le président des États-Unis le veut et parce que je pense que les belligérants peuvent y trouver un intérêt. Les Ukrainiens, parce qu'ils sont en difficulté sur le terrain, les Russes, pour obtenir leurs gains, et puis d'autre part, du fait que eux aussi, ça leur coûte sur le long terme cette guerre. Ils sont en économie de guerre. Ils peuvent pas éternellement maintenir un tel effort.
Mais l'ouverture de pourparlers ne fait pas nécessairement taire les fusils, car souvent, pendant les travaux, la vente continue, ironise le diplomate Jean de Glignasti.
Comme une des deux parties ne souhaite pas le cessez-le-feu, d'abord parce qu'elle marque des points, c'est la Russie qui en ce moment grignote, et donc plus le temps passe, plus ça joue en sa faveur. Et puis d'autre part, la Russie, elle veut un traité de paix qui consolide ses acquis territoriaux. Alors que les Ukrainiens, maintenant que Trump est là, ils souscrivent à l'idée d'un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu provisoire, puisqu'ils se réservent la possibilité de récupérer leur territoire, soit par la diplomatie, soit par la guerre. Donc ici, il y a deux positions différentes, et il est clair que pendant qu'on mettra ça au clair, la vente continue, c'est-à-dire hélas, la guerre et les morts et les blessés et tout ça.
Oui, on le comprend, Franck, difficile dans ces conditions de trouver un chemin vers la paix.
Raison pour laquelle la question des garanties de sécurité offertes à Kiev est cruciale, insiste le géopolitologue Pascal Boniface.
Si l'Ukraine est contrainte de céder des territoires, on peut aussi comprendre qu'ils ont besoin de garanties pour l'avenir, parce qu'ils ont une confiance très modérée dans les promesses de Poutine. Et donc pour cela, il faut donner des garanties de sécurité. La présence dans un pays qui n'est plus en guerre contre la Russie de troupes françaises et britanniques pourrait avoir un effet dissuasif par rapport à la Russie. Puisque dans ce cas-là, ça serait la Russie qui devrait prendre l'initiative du conflit et non pas la France ou la Grande-Bretagne.
Donald Trump a prévenu, même en cas d'accord de paix définitif, il n'enverra pas de soldats. Alors tous les regards, et à raison, se tournent vers Paris et Londres, décrypte Jean de Glinesti.
Au moment de l'ersatz de l'accord de paix d'Istanbul, qui avait été quasiment agréé en avril de 2022, il était prévu qu'il y ait des garanties des pays membres du Conseil de sécurité. Et il se trouve que membres du Conseil de sécurité, la France et l'Angleterre, sont aussi membres de l'OTAN. Donc c'est une façon de contourner ce qui est un non possumus, c'est-à-dire une impossibilité pour les Russes qui ne peuvent pas accepter que l'OTAN en tant que telle garantisse l'Ukraine et joue un rôle dans la paix en Ukraine.
Il est aussi possible qu'en 2025, la guerre continue. Toute pression pour des négociations trop tôt nuisent à l'Ukraine, estime ainsi Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne.
Franck Alexandre pour Ligne de Défense, 6h20 en temps universel. Il se présente lui-même comme l'événement de la tech le plus puissant au monde. Le CES, le Consumer Electronics Show, ouvrira ses portes mardi à Las Vegas. C'est vraiment le grand rendez-vous du monde de la technologie pour s'y informer sur les innovations et les découvertes en tout genre. Et une fois de plus, l'intelligence artificielle devrait s'y tailler la part du lion, même si ce n'est plus seulement une simple lubie futuriste. Non, c'est déjà une réalité. L'IA s'intègre d'ores et déjà dans nos sociétés. Mais pour en faire quoi? Comment les pouvoirs publics ou les entreprises mettent-ils l'intelligence artificielle à profit? C'est la question que l'on se pose ce matin dans notre tour du monde des correspondants. Et premier arrêt au Japon, un pays dont 30% de la population a plus de 65 ans et qui fait face, en plus de cela, à une pénurie du personnel soignant. Et c'est là que l'IA intervient, via des robots médicaux et des technologies de connectivité. Et Frédéric Charles est notre correspondant au Japon.
À Fukuoka, dans le sud du Japon, une maison de retraite utilise l'intelligence artificielle pour soulager des patients atteints de démence. Daichan, un petit robot, est engagé dans une conversation approfondie avec une femme souffrant de la maladie d'Alzheimer. « As-tu déjà joué à Kikikan ?» lui demande Daichan. « Oui, je le fais tous les jours !» répond la personne avec un sourire. Au lieu de suivre un script, le robot utilise l'intelligence artificielle pour orienter la conversation. Daichan pose des questions de suivi sur un sujet qui semble intéresser la personne, sinon il passe à autre chose. Pour Harmonie, le prestataire de soins infirmiers, ces robots d'intelligence artificielle servent à remédier à une pénurie d'aides-soignants. Daichan, le robot, discute tranquillement avec une personne atteinte de démence, l'invite à se concentrer sur un sujet, ce qui permet d'atténuer chez elle d'éventuelles crises de panique. Encore faut-il créer des robots conversationnels spécialisés. Une intelligence artificielle standard ne suffit pas. Il a fallu 3 ans d'efforts à 5 ingénieurs d'Harmonie pour créer une intelligence adaptée à ses patients atteint de démence.
Frédéric Charles, à Tokyo, en Afrique du Sud, l'intelligence artificielle commence là-bas aussi à jouer un rôle dans le secteur de la santé. Des tests sont actuellement effectués dans le pays pour tenter de mieux dépister la tuberculose ou le VIH, qui compte parmi les principales causes de mortalité dans le pays. Des dépistages plus précis, plus rapides chez des patients isolés. Claire Bargelès, vous êtes à Johannesburg.
Pour la tuberculose, il existe des camions qui parcourent les zones à risque afin de proposer des radiographies gratuites et dépister des personnes sans symptômes. Mais lorsqu'il s'agit ensuite d'analyser les images, le pays manque de spécialistes. C'est alors que des outils d'intelligence artificielle entrent en jeu. S'ils sont entraînés à reconnaître des signes de la maladie sur les radios, ils parviennent ensuite à analyser d'autres images seules, donnant parfois des résultats encore plus précis que les docteurs. En parallèle, une application est en développement pour étudier le son de la toux de patients et détecter l'infection, une chose que ne peut faire l'oreille humaine. Du côté du VIH, des modèles similaires sont en cours d'élaboration pour analyser les tests et réduire le nombre de résultats faussement négatifs ou positifs, ou encore pour identifier les personnes les plus à risque grâce à l'analyse de données à grande échelle. En Enfin, des chercheuses travaillent sur un programme capable de converser avec les patients touchés par le virus pour les guider.
Merci Claire Margelès. Et puis, dernière étape de ce tour du monde des correspondants au Canada, encore marqué par les incendies qui ont embrasé le pays en 2023. On parle quand même de l'équivalent de la surface de la Tunisie partie en fumée. Alors, depuis 2 ans au Canada, les projets d'intelligence artificielle pour mieux prédire ces catastrophes se multiplient, Alexis Gacon.
Oui, en Alberta, un outil alimenté par l'intelligence artificielle permet d'aider les pompiers à prendre les bonnes décisions au bon moment. Il s'appuie sur l'apprentissage automatique, le machine learning, pour analyser des données sur les feux de forêt. Comme données, il y a la météo du jour où ils se sont déclenchés et le type de ressources utilisées pour les éteindre. Et ça, ça peut permettre de prévoir les nouveaux feux qui vont se déclencher le lendemain. Ça va aider les autorités à prendre des décisions sur la quantité de pompiers à déployer pour éviter de mobiliser trop de ressources au mauvais endroit. L'outil, qui est piloté par le centre d'innovation publique privé govlab.ai, est censé prévoir dans 8 cas sur 10 si un nouveau feu va se déclencher dans une zone donnée. D'autres projets se développent ailleurs, mais pour l'instant, ce qui est plus dur à analyser pour l'intelligence artificielle, c'est la propagation des feux une fois qu'ils sont partis, parce que les facteurs sont très nombreux. Ce qui pourra l'aider, c'est qu'en 2029, l'Agence spatiale canadienne prévoit de lancer le satellite WildFireSat, qui sera le premier au monde conçu pour surveiller spécifiquement les feux de forêt.
Alexis Gacon pour refermer ce tour du monde des correspondants sur RFI. Ça ne me servira à rien dans la vie les mathématiques. Vous vous êtes peut-être déjà dit cette phrase vexée après avoir rendu une bien pâle copie sur les bancs de l'école. Eh bien, détrompez-vous grâce à la chronique de la biodiversité, car sachez que les maths nous expliquent notamment pourquoi la nature touche à la perfection. C'est dans ta nature avec Florent Guignard.
2 et 2, 4, 4 et 4, 8.
Bon là c'est assez simple, mais connaissez-vous la suite de Fibonacci où chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent?
Donc on part de 1 et 1, puis 2, puis 3, parce que 3 c'est égal à 2 plus 1, puis 5 égal à 3 plus 2, et on continue ainsi, 8. 21,
Gaëlle Chani, mathématicienne à l'université de Rouen, nous parle de son lointain confrère italien, Leonardo Fibonacci, auteur d'un livre majeur en 1201.
Le but, c'était de populariser l'usage des nombres arabes, parce que jusque-là, on utilisait plutôt les chiffres romains. Et donc, la suite apparaît dans ce livre comme un exercice pour modéliser l'évolution d'une population de lapins.
Oui, mais à part les lapins, quel est le rapport avec la nature?
Les nombres de Fibonacci apparaissent de manière un peu surprenante au premier abord dans la nature. Si vous observez les écailles sur la peau d'un ananas, vous avez deux réseaux de spirales qui tournent dans deux sens différents. Et si on compte ces spirales, on trouve deux nombres de la suite de Fibonacci consécutifs.
Les nombres de Fibonacci se retrouvent sur 96% des plantes présentes sur Terre des millions d'années avant le génial mathématicien.
Il n'avait aucune idée du fait qu'on allait retrouver des nombres de Fibonacci dans la nature. Ce sont des travaux de phylotaxie, la science qui étudie les arrangements géométriques des végétaux, qui font apparaître les nombres de Fibonacci dans la formation des plantes et des fleurs.
La fleur du tournesol, composée en réalité de centaines de petites fleurs, révèle même le nombre d'or, la divine proportion, Gaëlle Chani.
Les mini-fleurs, les fleurons, vont se former de manière successive en tournant autour du centre de la fleur, avec un angle donné qu'on appelle l'angle de divergence. L'évolution a sélectionné cet angle de divergence-là parce que c'est ce qui permet de placer le plus de fleurons dans le capitule de la fleur, dans le cœur de la fleur, pour disséminer le plus de graines possible après. D'un point de vue mathématique, on s'aperçoit que ce modèle est construit avec un angle de divergence égal à l'angle d'or, donc 1 sur phi, où phi est le nombre d'or.
La perfection est dans la nature, CQFD.
CQFD, SOS, le monde est HS, mais RAS, y a pas de SAV, pas de contrôle Z sur le clavier. Dis-moi lequel d'entre nous est prêt à changer. CQFD.
On passe à la question.
Dis, tu nous racontes une belle histoire pour bien commencer l'année?
Ok, c'est l'histoire de Talekwa, une femelle orque devenue célèbre en 2018 pour un geste d'amour immodéré. Elle avait porté sur son dos la dépouille de son nouveau-né pendant 17 jours, refusant qu'il coule au fond du Pacifique au large du Canada. Mais séchez vos larmes parce que la suite de l'histoire est tout aussi belle. On vient de revoir Talekwa, accompagnée d'un petit bien vivant cette fois. C'est une femelle et c'est une excellente nouvelle pour cette population des polars dans cette région. Ils sont moins de 100 aujourd'hui.
C'est dans ta nature avec Florent Guignard, le journal consacré à l'actualité africaine. Dans un petit peu plus d'une minute, je vous rappelle notre site internet rfi.fr pour y suivre toutes les dernières actualités. A tout de suite sur la Radio du Monde.
Dans
Dans un monde en constante évolution, une valeur reste essentielle, la confiance, comme celle que vous nous offrez chaque jour.
Ce qu'on a voulu cette année à RFI, c'est d'aller au contact de tous les électeurs américains, ceux qu'on n'entend pas souvent.
Sur tous les continents, où que vous soyez, dans nos éditions d'information et nos magazines, nous plaçons votre confiance au cœur de notre mission.
Votre confiance, notre raison d'être.
Bonne année 2025 sur RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
TikTok s'est imposé dans les téléphones des ados et jeunes adultes. L'application chinoise se voit reprocher d'aspirer nos données personnelles, de laisser circuler de la désinformation et d'être addictive, mais elle est aussi un outil pédagogique devenu presque incontournable pour les lycéens et étudiants. On parle de TikTok tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI et dès maintenant en podcast dans l'atelier des médias.